Il est 9h40 tout pile sur France Inter. L'instant M, ça passe vite et ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Cache Investigation s'est fait une spécialité de l'enquête sur les circuits financiers des multinationales. Or, c'est exactement la même approche qui prévaut ici. Les journalistes abordent la question des prêtres pédophiles au sein de l'Église catholique. Au-delà des crimes que veut à tout prix cacher l'institution, Vatican, c'est un vaste système de mutations géographiques que dévoile cette enquête. Des prélats soupçonnés ou condamnés d'abus sexuels sur mineurs, déplacés dans le monde entier afin d'échapper au scandale, pire, à la justice. Comme on blanchit l'argent, on blanchirait les auteurs de viols d'enfants. Bonjour Martin Boudeau.
Bonjour.
Cache Investigation ce soir sur France 2 à 21h. Un an de travail en France, aux États-Unis, en Afrique, en Italie, en collaboration avec Mediapart. On va en reparler dans un instant. Juste après Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Hanouna entre dans le débat sur le débat.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors, hier soir, Bruno Donnet, vous avez regardé le débat de la présidentielle à 5 que diffusait TF1, suivi, il faut quand même le préciser, par 9,8 millions de téléspectateurs, soit 48% de part de marché. Il y a même eu un pic à 11,5 millions de téléspectateurs selon des données médiamétriques que vient à peine de nous communiquer TF1. Samedi, sinon, juste auparavant, Bruno, vous avez vu Nicolas Dupont-Aignan quitter le plateau du 20h de la même chaîne et vous vous interrogez ce matin sur le difficile exercice de l'égalité du traitement des candidats à la télévision.
Oui Sonia, j'ai été très frappé hier soir que le débat de la présidentielle commence par une question non pas politique, mais bel et bien médiatique. Car figurez-vous qu'à la toute première question qui était « Quel président voulez-vous être ?», François Fillon a choisi de répondre par un préambule.
Je voudrais juste dire un mot sur l'organisation du débat. On est 11 candidats à l'élection présidentielle. Il y en a 5 ici. Ça pose une question démocratique.
Voilà, ça pose une question démocratique, a dit Fillon, immédiatement rejoint par Le Pen et Macron. Alors c'est vrai. Et cette question, eh bien, on pourrait la résumer comme ceci. Une chaîne de télévision peut-elle décider d'établir une hiérarchie entre les candidats? Nicolas Dupont-Aignan a estimé que non. Et pour le faire savoir, il a choisi d'organiser un coup médiatique en quittant brutalement, samedi soir, le plateau du 20h de TF1.
Au nom des millions de Français qui ne supportent plus cette loi du plus fort, cette confiscation de la démocratie, j'ai le devoir aujourd'hui de quitter votre plateau.
Voilà, alors n'est pas Maurice Clavel qui veut, hein. Vous vous souvenez de ce qu'il avait lancé en 1971 à Alain Duhamel avant de quitter le plateau.
Messieurs les censeurs, bonsoir.
Mais n'empêche, le geste de Nicolas Dupont-Aignan est incontestablement un geste fort, et le simple fait qu'il ait été vu par 12 millions de personnes sur les réseaux sociaux révèle à quel point la question passionne nos concitoyens. Alors, revenons-y. Une chaîne de télé peut-elle établir une hiérarchie entre les candidats? Du point de vue strictement du droit, la réponse est oui, puisque le CSA et le Conseil d'État ont donné raison à TF1. Et du point de vue moral maintenant, ou alors déontologique si vous préférez, eh bien là, pour y répondre, il faut en fait sonder, évaluer le degré de sincérité du candidat. Car le problème, c'est de savoir quel but il poursuit. Est-ce qu'il se présente pour réellement devenir président de la République, ou est-ce qu'il souhaite tout simplement profiter de l'élection pour s'attirer la lumière des caméras et faire parler de lui? Ce travail est un travail absolument journalistique. Il est difficile, car la réponse n'est bien sûr pas la même en fonction des candidats. Mais pour ce qui est de Nicolas Dupont-Aignan, puisque c'est lui qui a choisi de ruer dans les brancards cathodiques, pour répondre à la question, il suffit d'examiner son comportement sous deux axes. Politiquement d'abord, médiatiquement ensuite. Politiquement, il est un député nettement plus absent que la moyenne. Et sa toute dernière question posée à l'Assemblée nationale portait sur les problèmes de vessie douloureuse.
Ah.
Ok, admettons. Et médiatiquement maintenant, eh bien là, il a choisi de quitter le plateau du 20h de TF1 après avoir parlé pendant 4 minutes de sa non-invitation. Alors il aurait tout aussi bien pu décider de profiter de l'antenne de la chaîne la plus regardée de France pour exposer son programme, pour promouvoir ses idées ou pour tenter de nous convaincre de voter pour lui, mais non. Et puis hier soir, il a accepté l'invitation de Cyril Hanouna qui lui a précisé d'entrée de jeu.
Alors on fait pas de politique ici, on n'en fait jamais.
Voilà, que son émission était une émission dans laquelle on se contentait d'organiser le spectacle et que la politique n'y avait pas droit de citer. Néanmoins, Dupont-Aignan a accepté de jouer le jeu et de répondre à une interview dont le sens m'échappe encore.
J'aurais qu'on fasse une petite interview, Rasra ou Darka. Je vous montre des candidats, vous me dites si pour vous ils sont Rasra ou Darka dans la vie.
Voilà. Alors où est la politique là-dedans? Le projet pour la France? Son ambition est-elle Rasra ou Darka? Bref, qui de TF1 ou de Nicolas Dupont-Aignan colle le plus profondément des nouilles dans le slip du débat démocratique? Je vous laisse réfléchir à la question, je me lève et je quitte ce studio.
Non, vous allez chez Hanouna. Ça tombe bien, on y cause beaucoup de télé et vous adorez ça. Merci Bruno Donnet.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Allez, Martin Boudot est mon invité ce matin, journaliste de Cache Investigation. Cette enquête sur les prêtres pédophiles au sein de l'Église catholique a été amorcée dès l'origine avec vos confrères de Mediapart. Comment s'est produit ce croisement assez inédit entre deux rédactions d'investigation?
En fait, nous, depuis plusieurs années maintenant, on croit à quelque chose de très fort. C'est plus on est de journalistes d'investigation, mieux on fait notre travail. On fait partie de l'International Consortium of Investigative Journalists, donc c'est la ICIJ avec lequel on a travaillé pour les Panama Papers, etc. Donc c'est vraiment une démarche qui date depuis plusieurs années, et avec Mediapart très vite on s'est rendu compte que on travaillait sur les mêmes pistes, sur les mêmes personnages, sur les mêmes systèmes. Et on s'est dit, pourquoi pas ne travailler ensemble une fois de plus avec
Je cite vos confrères, Daphné Castaldi, Mathieu Martinière et Mathieu Péris, qui publient en même temps que sort votre document chez JC Lattès, Église, la mécanique du silence.
Et Antoine Rouget en plus, aussi journaliste à Mediapart. Et en fait, ils avaient un avantage très, très important sur nous, c'est qu'ils sont de Lyon. Mm-hmm. Ils sont à Lyon, donc pour toute l'histoire Barbarin, les affaires Barbarin, ils avaient vraiment une assise beaucoup plus importante que la nôtre. Et nous, on est à Paris, on a aussi la possibilité d'aller beaucoup plus à l'étranger que eux ne le peuvent. Donc
donc vous les mettez à l'image, hein, ouais. ils sont mis en scène dans le document de Cache Investigation qu'on pourra voir ce soir. Et vous êtes régulièrement cité dans le livre qui sort là chez Lattès. On va plonger dans cette enquête avec Patrick Wall, qui se préparait à devenir un homme d'église aux États-Unis. Il a renoncé à sa vocation tant il se refusait à cautionner ce qui était su de tous au séminaire.
J'appelle ça la solution géographique. Prenons un exemple. Un évêque apprend qu'un prêtre est un prédateur sexuel. Il décide alors de le déplacer dans un autre diocèse où le scandale n'est pas connu. Il n'informe pas le clergé sur place. Il n'informe pas les gens.
Et si ça ne suffit pas?
Vous le changez de pays. Vous pouvez les bouger de continent en continent. Tant qu'ils parlent la langue, ça a l'air normal.
Voilà, une grande partie de votre enquête, Martin Boudot, est dédiée à ce grand système de la solution géographique. 3 mois de travail nécessaires uniquement pour recouper des données. Et encore, vous n'avez pas eu accès à tous les dossiers. Vous avez interrogé des associations, des avocats, des juges, des lanceurs d'alerte. Vous n'êtes remonté que jusqu'en 1990. Et là, vous établissez une carte des prêtres mutés par leur hiérarchie. La leçon, c'est 95 cas, au moins déterminés par vous, 802 victimes. Que révèle cette carte?
Elle révèle un système de déplacement internationaux de prêtres qui sont mis en cause dans des affaires de pédophilie. On se rend compte en fait que il y a une tradition qui est malheureusement encore en place, même si elle a tendance un peu à diminuer, de déplacer des prêtres quand ils sont mis en cause dans les affaires de pédophilie. Alors ça commence avec les diocèses à l'intérieur d'un pays. On a vu le cas Prena à Lyon, il a été déplacé de paroisse en paroisse. Et puis si ça suffit pas, si le scandale est vraiment trop important, on le déplace de pays en pays. Et très rapidement, on s'est rendu compte que pour le cas français, c'était plutôt l'Afrique francophone qui était plutôt prise comme une destination.
Alors, l'un des rares prélats qui a accepté de vous parler s'appelle le père Joulin. Il est à la fois prêtre et thérapeute. On écoute ses commentaires spontanés. Vous l'avez mis face à cette carte.
Il y a quand même cette idée que quelqu'un qui a été un prédateur pour des enfants, finalement, s'il va en Afrique ou s'il va en Amérique latine, c'est pas bien grave, quoi. Voilà. Pour les enfants là-bas, quoi. On est tellement bourgeoisé qu'on se dit, puisque c'est les petits Africains et c'est les petits Latino-Américains, c'est pas bien grave, hein, du moment que ce soit pas chez nous, quoi.
Voilà, totalement terrifiant.
Et pour vous dire à quel point ce sujet est sensible au sein de l'Église, Stéphane Joulin, le père Joulin, est le seul prêtre qui a accepté de commenter cette carte avec nous. D'autres prêtres avaient accepté. D'autres prêtres français avaient également accepté, mais ils n'ont pas eu l'autorisation de leur hiérarchie, de leurs évêques en l'occurrence. C'est pour aussi vous montrer à quel point ce sujet est vraiment compliqué.
Voilà, et le père Joulin vous explique très bien qu'il y a une peur profonde du scandale, une peur ancestrale du scandale au sein de l'Église catholique.
Malheur à celui par qui
voilà,
le scandale arrive.
Voilà. Et puis, il y a l'idée de renvoyer perpétuellement la responsabilité vers une responsabilité individuelle et jamais collective pour ne jamais désavouer le système.
Exactement. C'est là tout son combat. Il dit une phrase assez forte, c'est que si on admet qu'il y a un problème collectif, c'est que donc le système ne fonctionne pas. Et c'est donc l'ensemble de la formation des prêtres qu'il faut remettre en cause. C'est l'ensemble de la place de la sexualité qu'il faut remettre en cause. C'est également la position du père. Hein, mm-hmm. On dit mon père, la position mm-hmm. paternelle du prêtre et également de l'Église de manière générale. Donc c'est très intéressant. Cette interview, elle est fondamentale. Elle fait à peu près 7-8 minutes dans le documentaire. On a vraiment essayé de la laisser en longueur parce qu'il fallait aussi qu'on donne la parole à ces prêtres qui essayent de faire bouger les choses à l'intérieur de l'Église.
Voilà, et lui, il dit, on sort d'une année jubilaire consacrée à la miséricorde. Ça a été une année consacrée au pardon. Ça a été une année insupportable pour les victimes, puisque systématiquement, on protège le système et pas les victimes au cœur de ce système. Alors, vous parliez de personnages, Martin Boudot. Vous êtes intéressé de très près à l'histoire du père Rivoire, à l'histoire du frère Albert, à l'histoire du père Emmanuel. À chaque fois, ce sont des hommes que vous avez poursuivis de vos investigations, que vous avez retrouvées, que vous avez interrogées. On va commencer par le frère Albert. Le frère Albert, il est membre des Frères du Sacré-Cœur. Vous l'avez retrouvé au Puy-en-Velay. Ce n'est pas une blague, vous l'avez retrouvé au Paradis. C'est le nom de la résidence dans laquelle il est hébergé. Vous disiez notre père, oui, notre père. Il a passé 25 ans en Guinée dans un village où pour tout le monde, il était le papa. Et il était d'autant plus le papa qui parrainait le club de foot local. Jusqu'au jour où un adolescent a parlé, cet adolescent, il s'est confié à vous. Il a encore peur des représailles.
Oui, tout à fait. Et ça a été très compliqué de le convaincre de parler parce que il a reçu une telle pression psychologique à la fois du frère Albert et des proches du frère Albert qu'il avait encore très peur de nous parler. Mm-hmm. Il a fallu des jours et des coups de téléphone, plusieurs coups de téléphone pour le rassurer sur nos intentions parce qu'il savait pas vraiment qui on était et on peut le comprendre. Moi, j'arrive de France en plein Conakry. Voilà, qu'est-ce que vous venez faire ici? Est-ce que je vais encore me faire battre parce qu'il s'est déjà fait battre par des proches de ce religieux.
Et il vous raconte son viol.
Et il me raconte son viol, etc. Avec des mots d'une pudeur assez étonnante. Il dit voilà, il n'ose pas trop mettre des mots dessus. Il dit voilà, c'est comme toi avec ta copine. Simplement, moi, je le voulais pas. Et on est dans cette discussion-là. Et alors, nous déjà, les victimes françaises ont du mal à parler, mais il faut imaginer des victimes de Conakry dans la pauvreté dans laquelle ces victimes vivent. C'est encore plus compliqué entre guillemets parce qu'elles n'ont pas un soutien psychologique.
C'est ça. Et le poids de l'Église sur place est extrêmement important. Le frère Albert, lui, il a été immédiatement rapatrié. À peine la justice guinéenne s'y est intéressée qu'il a été immédiatement rapatrié. Vous l'avez fait parler, le frère Albert.
Mais en Guinée, j'étais un peu comme un intouchable. Je ne veux pas dire que je ne m'occupais plus des lois, mais je me sentais invulnérable.
Parce que du coup, la justice guinéenne, elle vous a poursuivi ou pas?
Non, il n'y a pas eu de... Non, non. Comme je suis rentré assez vite, ça n'a pas tellement duré, disons.
Et on vous a aidé au sein de la communauté?
Bien sûr. D'abord, en venant ici, c'était une maison où il n'y avait que des frères et puis que des adultes. Ici, j'avais plus les mêmes activités, j'avais plus les mêmes tentations ou occasions.
C'est ce qui revient systématiquement dans ces affaires de mutation géographique. On l'a déplacé, il n'est plus au contact de mineurs, donc on s'en lave les mains, fin du dossier.
Le problème est réglé. Voilà.
Le problème est réglé. Et vous insistez justement avec les supérieurs de la congrégation, il n'a jamais été signalé à la police, sauf après votre passage sur place. Or, les faits datent d'il y a déjà plusieurs années.
Oui, et c'est ça qui est assez dommageable, c'est qu'on a l'impression qu'il faut un scandale public à chaque fois pour que les choses bougent. C'était le cas du cardinal Barbarin, c'est le cas du père Prénat qui finalement a un procès canonique, mais à quel prix? Et nous, c'est pareil. À chaque fois qu'on a enquêté sur un religieux ou sur une congrégation, derrière, des choses se sont passées. Alors, il y a eu soit les signalements, soit il y a un procès canonique, donc un procès interne, en gros, disciplinaire de l'Église, soit des mesures ont été prises. Mais Voilà, on se dit, on a besoin d'en arriver jusque-là pour
alors,
ça.
C'est... Justement, parce que c'est intéressant, le père Rivoire, par exemple, qui a exercé au Canada, qui est français, accusé du viol de 4 enfants, sous mandat d'arrêt international depuis 1998, donc ça fait plus de 20 ans qu'il échappe à la police. Vous avez mis plusieurs mois à le retrouver, vous le retrouvez à Strasbourg. Lui, vous avez récupéré son nom auprès d'une association américaine qui aide les victimes et qui balance sur Internet le nom et la photo des prêtres incriminés. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de procédé ?
C'est très anglo-saxon. C'est une culture dans laquelle qu'on ne connaît pas vraiment, nous, en France, ce qu'on appelle le name and shame. C'est-à-dire, c'est quasiment plus fort que, finalement, une procédure juridique où, voilà, c'est de mettre le nom sur Internet, de le rendre public. Moi, j'ai encore ce petit côté culture française qui fait que la présomption d'innocence, il faut la respecter. Alors voilà, eux, ils travaillent de manière chirurgicale, c'est-à-dire qu'ils mettent pas le nom de n'importe qui. Ils mettent uniquement des noms où la personne a avoué. Ou, voilà, ils ont vraiment envie de que ces gens ne soient plus en contact avec des enfants. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, en tout cas, elle est très efficace. Et il faut dire que ils ont été très surpris eux aux États-Unis. Hein, donc c'est une association qui regroupe des signalements du monde
de
entier.
De constater la situation française, aussi peu
de signalements en France. Ils disent que la France est une sorte de trou noir, on n'a pas d'informations, on n'arrive pas à avoir des signalements précis, etc. Ils disent que la parole est en train de se libérer, et c'est d'ailleurs le nom de l'association La Parole Libérée en France, qui s'est créée il y a un an et demi à Lyon. Mais on sent vraiment qu'en France, et encore plus en Italie, et encore plus en Espagne, on est encore très très en retard.
Alors
sur
justement, vous pointez l'histoire d'un prêtre lyonnais accusé en France, mais déplacé en Guinée, d'un curé sous mandat d'arrêt international ayant commis des faits en Normandie et en France, mais réfugié au Liban, d'un religieux italien coupable du viol de 8 petits garçons cachés au Mozambique, du frère Emmanuel que vous retrouvez à Turin, la congrégation de Saint-Jean, là aussi extrêmement opaque. D'ailleurs, vous n'arrivez à obtenir aucune interview, aucun témoignage de ces gens-là.
Il y a dans ces communautés religieuses vraiment un culte du secret qui est immense. Dans les diocèses, c'est un peu moins le cas, mais dans les communautés religieuses, c'est-à-dire voilà, la communauté Saint-Jean, les frères du Sacré-Cœur, les Béatitudes, etc. C'est souvent dans ces communautés, malheureusement, on retrouve les plus grandes affaires de pédophilie ou d'abus sexuels, parce que ça fonctionne un peu en vase clos, il n'y a pas vraiment de contrôle externe, etc. Donc ces communautés religieuses, pour nous, elles ont été très difficiles à aborder, et heureusement qu'on a des lanceurs d'alerte en interne qui nous ont donné des documents, qui nous ont permis d'avancer. Sinon, honnêtement, on n'aurait pas réussi à avoir une vue de l'intérieur. Et là, très clairement, avec ces documents exclusifs qu'on récupère sur notamment la communauté Saint-Jean, on arrive à comprendre comment fonctionne cette communauté et comment elle gère les affaires d'abus sexuels, soit en les déplaçant, soit en se disant est-ce qu'on le signale, est-ce qu'on le signale pas. Parfois elle le fait à retard, parfois et souvent elle ne le fait pas.
Avec beaucoup de retard quand c'est fait. Alors vous remontez jusqu'au Vatican, puisque évidemment la thèse qui se dégage encore une fois de cette enquête, c'est qu'on protège systématiquement l'appareil avant de protéger les victimes. Et bien donc vous remontez jusqu'à la maison mère. Et là, vous établissez des faits extrêmement intéressants. D'abord que 4 des 10 hommes d'église, des 10 cardinaux les plus puissants au Vatican, c'est-à-dire l'entourage proche du pape, sont eux-mêmes accusés dans chacun de leurs pays d'avoir couvert des prêtres accusés de pédophilie. Et vous remontez jusqu'à une histoire argentine qu'on a rarement racontée en France, qu'on a rarement exhumée, celle du père Grassi, qui a été le plus grand scandale de pédophilie en Argentine. L'Argentine, c'est le pays du pape François.
Exactement, le pape François a été archevêque de Buenos Aires, cardinal jusqu'en 2013, et il est très critiqué en Argentine parce que il a tenté de faire innocenter un prêtre pédophile, donc le père Grassi, qui lui est condamné à 15 ans de prison en 2009.
Il était directeur d'un grand orphelinat. Il a violé
plusieurs enfants. C'est vraiment, mais alors je vais pas dire que c'est l'abbé Pierre local, mais c'était vraiment une figure locale,
une star médiatique.
Voilà, tout à fait. Et il est condamné en 2009 à 15 ans de prison en première instance pour agression sexuelle sur mineur. Et derrière la conférence épiscopale Argentine, qui est alors présidée par le José Bergoglio, donc, qui est donc le pape aujourd'hui.
Le pape François
va commander une contre-enquête pour essayer de décrédibiliser les victimes et également d'innocenter le prêtre en question. Et cette contre-enquête, elle va être envoyée au juge. Et nous, on a l'interview d'un juge qui, pour la première fois, dit « Effectivement, j'ai reçu cette contre-enquête et pour moi, c'est une tentative d'influence, une tentative de lobbying. »
Voilà, et là aussi, vous recueillez la parole encore très apeurée de témoins qui racontent à quel point ils ont été menacés, intimidés pour ne pas faire tomber le père Grassi. Moi, je vous propose de regarder donc ce soir Cache Investigation à 21h sur France 2 et de lire Église, la mécanique du silence, le livre que publient vos confrères de Mediapart chez J.C. Lattès. Bonjour. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Sonia de Villers, je suis très déçu, vous n'êtes pas habillée en vert ce matin.
Non, bon. C'est rare en fait.
Et ce matin...
Alors que vous, oui.
Exactement.
Et un ce drôle matin... de turquoise.
Plutôt émeraude, je trouve.
Ah, d'accord.
Et ce matin, on s'intéresse au vert dans notre vie quotidienne. Le vert, couleur ambivalente, qui porte chance ou malchance, qui plaît à un Français sur cinq. Quelle est la place du vert dans votre vie quotidienne en matière d'habillement, dans votre intérieur ou encore sur votre humeur? N'hésitez pas à témoigner par courriel, grand bien vous fasse à radiofrance.com et au standard inter 01 45 24 7000.
Un Français sur cinq seulement, oui, aime le vert.
Ben oui.
Allez, ciao, à tout à l'heure.